Ne me dis pas que tu m'adores, embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est incoloré, mais un baiser, c'est éloquent. Ne me fais pas.
Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle.
Juin 1941. En France, le maréchal Pétain établit un statut spécial pour les Juifs. En Allemagne, Hitler lance l'opération Barbarossa pour envahir l'URSS. En Italie, Altiero Spinelli, jeune résistant communiste, emprisonné depuis 14 ans, publie le Manifeste pour une Europe libre et unie, aussi connu sous le nom de Manifeste de Ventotene. Il fallait être sacrément visionnaire en 1941 pour écrire
« Au moment même où il faudrait faire preuve d'une décision et d'une audace extrême, les démocrates se sentent désorientés, n'ayant pas derrière eux un consensus populaire spontané, mais seulement un tumulte peu clair de passions. Ils pensent que leur devoir est de former ce consensus, et ils se présentent alors comme des prédicateurs qui exhortent, alors qu'il faudrait des chefs qui guident et qui sachent le but à atteindre. » Dans la gravité du moment, les forces réactionnaires sauront se présenter bien camouflées. Elles se proclameront partisanes de la liberté, de la paix, du bien-être général, des classes les plus pauvres. Le point d'appui auquel elles auront recours sera la restauration de l'État national. Elles pourront avoir prise, ainsi, sur le sentiment populaire le plus répandu, le plus offensé par les récents mouvements et le plus facilement utilisable à des fins réactionnaires. Le sentiment patriotique. C'est aujourd'hui qu'il faut savoir se débarrasser des vieux fardeaux devenus encombrants, se tenir prêt à accueillir les nouveautés qui se présentent et qui sont si différentes de tout ce qu'on avait pu imaginer, qu'il faut savoir rejeter ceux des anciens qui se révèlent ineptes et susciter parmi les jeunes des énergies nouvelles. Celle du mouvement pour l'Europe libre et unie.
Moi, j'ai pas d'autre idée. C'est la plus belle qu'on a eue.
Qui connaît les élections européennes? Souvent synonyme d'abstention record, de campagne électorale bâclée et de désintérêt médiatique, les élections européennes sont aujourd'hui l'unique et la plus grande élection supranationale au suffrage universel, direct, jamais organisée au monde. 9 épisodes pour 9 élections européennes. À travers les témoignages de celles et ceux qui ont participé à modeler ce Parlement européen depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, je vous propose de vivre la mémoire de ces élections, chronique intime et singulière des évolutions de notre société européenne. Je m'appelle Laetitia Chabanne et vous écoutez Europe et sentiments. Élection européenne, une histoire sous les radars. Épisode 2, 1984, souveraineté nationale, la grande illusion. Le contexte. Deuxième élection, 10 pays membres votent. Nouvel arrivant, la Grèce, en 1981, taux de participation, 58,98%. Je vais vous faire une confidence. Jusqu'il y a peu, je ne connaissais pas le nom ni l'existence d'Altiero Spinelli.
Disons, d'un point de vue spirituel au idéal, on pourrait imaginer un panthéon de pères et de mères de l'Europe. Spinelli ferait certainement partie de ce panthéon.
Il se trouve qu'en France, quand on parle des pères fondateurs de l'Europe, on s'arrête souvent aux Français. Pourtant, des pères de l'Europe, il n'y en a d'autres que Jean Monnet ou Robert Schuman.
Donc, certainement, il faisait partie de ce groupe de personnalités qui ont contribué à la construction de l'Europe, avec sa vision à lui, qui était très différente de la vision de Jean Monnet et de Schuman, parce que Spinelli était pour un processus constituant. Au contraire, Monnet et Schuman, il était plutôt pour l'idée du fonctionnalisme et du gradualisme.
Fonctionnalisme. Pour favoriser la coopération entre pays, on part de nécessités techniques et non politiques. Exemple, interrelier la production de l'acier et du charbon allemand et français pour qu'on ne puisse plus se faire la guerre. Les fonctionnalistes considèrent que le gouvernement, dans le cadre de l'État-nation, amène à privilégier la lutte pour le pouvoir sur le bien-être d'une société. Gradualiste, qui insiste sur la nécessité de progressivité des réformes en opposition avec les radicaux qui veulent avancer le plus rapidement possible et sur tous les fronts.
Donc il y avait cette chose qui les distinguait. Mais il y avait une chose pour laquelle ils étaient d'accord, il suffit de regarder la déclaration Schuman dans son texte original, parce que tous les deux, Jean Monnet et Spinelli, étaient d'accord sur l'idée qu'un jour ou l'autre, on devrait arriver à une fédération européenne.
Fédéraliste, c'est-à-dire une union européenne qui puise sa légitimité non plus dans la volonté des diplomaties nationales ou dans les relations intergouvernementales, mais directement dans celles des individus. C'est-à-dire une Europe dotée d'une vraie légitimité démocratique. En cela, elle s'oppose au nationalisme. Mais nous reviendrons sur cette idée.
Le noyau de la réticence, c'est les grandes administrations nationales. Parce que ce sont elles, avec leur influence, qui sentent le plus que l'accroissement de l'Europe, c'est une diminution, un repensement, une limitation et une réforme de leur pouvoir actuel. Et alors, elles font spontanément, instinctivement résistance.
Le personnage que je vous propose de découvrir est donc Altiero Spinelli, militant communiste et antifasciste, emprisonné pendant 16 ans sous le régime de Mussolini. Homme politique italien et fervent défenseur d'une Europe libre, unie et fédérale. Ok, je vous ai perdu, vous vous dites, et les élections européennes de 1984 dans tout ça? Eh bien, figurez-vous qu'en juin 1984, Altiero Spinelli a 77 ans et il est élu pour la deuxième fois consécutive député européen en Italie. C'est un homme âgé, mais toujours combatif et révolutionnaire. Vous l'avez compris, Altiero Spinelli est mort depuis près de 40 ans. Ce n'est donc pas lui que je suis allée rencontrer pour me raconter les élections européennes de 1984, mais son assistant et conseiller, Pier Virgilio d'Astoli, qui à l'époque avait tout juste 30 ans. Lui n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale, mais il a manifesté contre celle du Vietnam.
Dans mon village, on ne s'occupait pas de l'Europe, on ne s'occupait de la dimension internationale, à l'époque où il y avait la guerre au Vietnam. Et donc, nous, qui nous étions très jeunes, un peu, disons, je ne dis pas révolutionnaires, mais qu'on commençait à penser, disons, à l'idée de faire des initiatives un peu radicales, on faisait des marches dans mon village pour protester contre la guerre au Vietnam, pour protester contre la bombe nucléaire. Donc, on a commencé dans mon village à secouer ces choses quand j'avais 13 ou 14 ans, donc. J'ai même créé un mouvement qui s'appelait il Movimento Studentesco Internazionale, qui était lié, vous savez, qu'en 68, il y avait beaucoup de manifestations. Et donc, moi, je faisais un peu partie de cette mouvance de 68, et j'ai commencé donc à m'intéresser aussi à la dimension européenne à ce moment-là.
Nous nous sommes rencontrés à Rome, dans son bureau, juste à côté de la Piazza del Popolo, la place du peuple. Rien n'est vraiment dû au hasard. Pour bien comprendre la portée du manifeste de Ventotene, je lui ai demandé de revenir sur la pensée d'Altiero Spinelli en 1941 et sa déclinaison aujourd'hui.
L'idée d'unifier l'Europe est une idée ancienne, c'était une idée très théorique. Tandis que ce groupe de jeunes, parce qu'ils étaient quand même des jeunes, parce que Spinelli, quand il est arrivé à Ventotene, il avait 32 ans, et ils avaient deux ou trois idées claires. La première, c'est qu'ils étaient convaincus qu'à la fin de la guerre, la démocratie aurait gagné. En 1941, presque toute l'Europe était occupée par les nazis et par les fascistes. Et donc, il était difficile d'imaginer qu'en 1941, c'est la démocratie qui aurait gagné contre le totalitarisme. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose, c'est qu'ils étaient convaincus, Spinelli et les autres, que la démocratie aurait été faible si on allait reconstruire la démocratie sur la base des anciens États-nations. Et donc, pour construire une démocratie solide, capable de se développer et résister dans le temps, il fallait construire une démocratie avec une méthode différente que celle qui existait avant la guerre et même avant la Première Guerre mondiale. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Et dans ce deuxième point, il y avait deux concepts qui étaient très clairs de leur part, qu'il fallait se battre, disons, parallèlement sur deux choses. On pourrait imaginer qu'ils sont la même chose, mais ils sont différents. La première chose contre laquelle il faut se battre, c'est la souveraineté absolue, qui à l'époque était celle du fascisme, mais aussi d'autres, et qui est très actuelle. Et le problème de la souveraineté absolue, c'est un problème international, n'est pas seulement un problème européen. Et puis il y a un problème qui est européen, qui est celui du fait que l'Europe a été basée pendant longtemps sur l'État-nation. Et alors, l'État-nation, en principe, ça pourrait pu être une bonne chose, parce que ça peut donner quand même des droits aux citoyens, mais puis l'État-nation développe le nationalisme, et comme François Mitterrand a dit dans son dernier discours au Parlement européen...
Si on ne l'avait pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs, le nationalisme... C'est la guerre.
Et donc, il y avait ce concept qui est clair dans les idées de Spinelli et d'autres, qu'il fallait se battre en même temps contre la souveraineté absolue et contre l'État-nation. Et donc, après la guerre, il fallait se battre contre ces choses pour essayer de construire une dimension européenne différente que celle qui existait avant la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour faire ça, et ça c'est le troisième point important du manifeste de Ventotene, pour le réaliser, il n'était pas suffisant d'élaborer une belle théorie, mais il fallait la baser sur un mouvement révolutionnaire. Et le mouvement révolutionnaire qui a été constitué en 1943, c'était le mouvement fédéraliste.
Je récapitule. En juin 1941, depuis leur prison de Ventotene, Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, tout juste âgés de 30 ans, sont donc convaincus que les démocraties vont gagner la guerre, que c'est la fin des États-nations, c'est-à-dire que l'appartenance à une nation ne coïncide plus à l'existence d'un État souverain qui exerce l'autorité, qu'il faut donc se battre contre le concept de souveraineté absolue, type impérialisme russe ou hégémonie américaine, et contre le principe d'État-nation. Que nous avons besoin d'un mouvement révolutionnaire pour construire un modèle européen différent. L'idée d'un révolutionnaire au Parlement européen, je dois dire que ça me plaît. Ce que me rappelle Pierre Virgilio d'Astoli, et qui est peut-être la chose la plus importante à retenir de la pensée de Spinelli, c'est qu'aucun traité n'est gravé dans le marbre. L'Union européenne ne vous plaît pas, transformez-la. Et c'est exactement ce qu'il essaye de faire en 1984. Mais avant de continuer, je vous remets le contexte.
Beaucoup de roses blanches aujourd'hui à la boutonnière des parlementaires européens. Elles ne sont pas destinées à honorer le futur président de l'Assemblée de Strasbourg, mais rappellent la fleur arborée dans les années 30 en Allemagne par les étudiants anti-hitlériens.
Le dimanche 17 juin 1984 marque l'entrée au Parlement européen du Front National de Jean-Marie Le Pen.
Un grand nombre de députés ont ainsi voulu protester contre la création hier par Jean-Marie Le Pen du groupe des droites européennes, rassemblant élus du Front National français, du mouvement néofasciste italien et un député grec d'extrême droite.
Sur une campagne qui affirme « C'est le patriotisme des nations qui sauvera l'Europe face aux menaces de l'hégémonie soviétique et de l'immigration ».
Pour que l'Europe vive, il faut qu'elle ait le sentiment qu'elle est une communauté, et une communauté menacée.
En France, c'est la surprise générale. Aucun sondage n'avait prévu l'arrivée du Front National au Parlement européen, ni une perte d'influence aussi majeure du Parti communiste français. 10 élus du FN, dont Jean-Marie Le Pen, entrent au Parlement européen. Même si à cette époque, les eurosceptiques n'existent pas.
Le mot eurosceptique a été inventé par un journal anglais et était basé plutôt sur les eurosceptiques britanniques. Et puis, malheureusement, ils sont passés au-delà de la Manche, les eurosceptiques. Maintenant, il y en a partout. Mais disons, il n'y en avait pas d'eurosceptiques. Même les trois parlementaires de l'extrême droite italienne n'étaient pas d'eurosceptiques. Je me rappelle qu'Almirante, quand il rencontrait Spinelli, il lui disait « Altiero, nous sommes tes soldats, donne-nous des ordres et nous allons obéir. » Donc, les Italiens, dans leur ensemble, ils étaient tous pro-européens par nature. Donc, même l'extrême droite, même s'ils étaient fascistes, ils ont voté, même le projet Spinelli, les trois parlementaires de l'extrême droite. Puis, ils sont arrivés, comme vous avez dit, en 1984, il y a eu comme les deux autres partis qui sont arrivés, donc ils ont créé l'euro-droite. Mais cette euro-droite n'a jamais eu une influence dans le Parlement européen. C'était vraiment une petite chose très marginale. Ils n'ont jamais... D'une part, maintenant, comme vous le savez, dans les sondages, c'est différent. Mais à l'époque, il n'y avait personne au Parlement européen qui avait peur, disons, du fait que l'extrême droite et les fascistes auraient pu devenir une force, avec une grande influence dans les travaux du Parlement européen. C'était vraiment un peu... En France, c'était un peu différent, parce qu'évidemment, le fait que le Front National de Jean-Marie Le Pen arrive au Parlement européen a créé un certain scandale, mais au Parlement européen, ils n'ont jamais joué un rôle important. Ils sont toujours très marginales au Parlement européen.
Si Pier Virgilio d'Astoli minimise l'influence de ces mouvements fascistes en 1984, cette date marque néanmoins le début d'un virage nationaliste et populiste de droite en Europe, dont on connaît aujourd'hui la place immense. Mais revenons à 1984 pour bien comprendre notre passé et éclairer notre actualité. À cette époque, la CEE est dans une période difficile, avec une politique monétaire qui n'avance pas, une politique agricole déséquilibrée et trop onéreuse, et des relations Nord-Sud tendues. Il faut un nouveau souffle. Or, le Parlement européen n'a toujours qu'un rôle consultatif, c'est-à-dire un pouvoir très limité. Et c'est bien cela qu'Altiero Spinelli veut changer. Changer le traité de Rome. C'est là que naît le club du crocodile.
Alors Spinelli a pensé, quand il est arrivé au Parlement européen, que pour résoudre les problèmes, il fallait changer le système, donc il fallait changer les traités. Et alors il a pensé qu'il fallait montrer aux parlementaires que le Parlement européen, qui avait été élu au suffrage universel et direct, n'avait presque pas de pouvoir. Et donc, il fallait leur montrer d'une façon très claire et nette que si on restait dans cette situation, le Parlement européen n'aurait pas eu la possibilité de changer les choses. Alors, d'un point de vue un peu machiavélique psychologique, nous nous sommes dit que si on allait tout de suite devant les parlementaires en disant assumer un rôle constituant Ils nous auraient regardé, mais ces gens sont un peu fous. Et donc, il fallait leur donner un exemple clair et net qu'il fallait changer les choses. Et donc, c'est là qu'il a lancé l'idée que le Parlement européen devait, comme l'Assemblée de la Palacorte, si vous voulez, qu'il fallait que le Parlement européen assume un rôle constituant, constitutionnel. Et alors, il a envoyé une lettre à tous les parlementaires et... Les parlementaires étaient très réticents, parce qu'il est, sauf un des parlementaires qui est des révolutionnaires, qui est des Spinelli, tous les autres étaient des modérés, même s'ils étaient socialistes, libéraux, ou conservateurs, il n'y avait pas encore les Verts. Et donc, le seul révolutionnaire est des Spinelli. Et quand on s'est rencontrés la première fois, après la lettre que Spinelli a envoyée aux parlementaires, ils étaient 9. Donc, pour dire qu'il n'y a pas une... disons, un consensus extraordinaire à l'idée qu'il fallait se lancer dans cette action révolutionnaire qui avait été imaginée par Spinelli. 9, c'était pas beaucoup, disons. Mais Spinelli, qui était un homme très optimiste dans la vie, il était convaincu que quand même on aurait gagné. Donc lentement, les 9 sont devenus 15, et puis lentement, on est arrivé à avoir une majorité. Et donc le Parlement européen, finalement, une année plus tard, c'est-à-dire le 9 juillet 1981, il a décidé de constituer une commission spéciale dont le seul mandat était de rédiger un nouveau traité. Donc c'est là que le Club Crocodile a eu une influence dans l'histoire de l'intégration européenne, parce que le Parlement européen donc a créé cette commission, et en 1984, le Parlement européen a adopté à une large majorité un nouveau projet de traité instituant l'Union européenne.
Comme en 1941, Altiero Spinelli a donc été visionnaire. Persuadé que l'Europe avait besoin d'un Parlement fort avec des pouvoirs législatifs et que la communauté européenne se devait de partager une constitution commune. Il mènera cette bataille jusqu'à la fin de sa vie, en mai 1986. Bataille qui débouchera sur l'acte unique européen ratifié en 1987 par les États membres. Une sorte de sous-version de constitution et de ce à quoi rêvait Spinelli, mais qui inaugurera tout de même le marché unique européen et le principe de libre circulation, et qui consacrera l'existence du Conseil européen, organe intergouvernemental.
Monsieur le Président, je veux essayer très brièvement d'expliquer par une parabole la signification du vote positif que je vais donner. Vous connaissez tous le petit roman de Hemingway où il parle d'un vieux pêcheur qui pêche le plus grand poisson de sa vie, et puis il tâche de le porter vers son port, mais les requins peu à peu le dévorent de manière qu'il arrive avec une arête seulement. Alors, moi, Monsieur le Président, le Parlement, par le vote qu'il va donner dans quelques minutes, aura pris le plus grand poisson de sa vie. Et il doit le porter encore dans le port. Mais faisons bien attention, parce que des requins seront à tout moment là pour tâcher de le dévorer. Tâchons de ne pas arriver seulement avec une arête.
C'est sur ce dernier, et la faible réforme institutionnelle, que Altiero Spinelli dira « La montagne a accouché d'une souris. La question reste de savoir si cette souris a été accouchée morte ou vivante. » Il me semble que cette campagne aura néanmoins eu le mérite de nous faire comprendre deux choses essentielles. La première, le Parlement européen est constitué d'une minorité d'innovateurs.
Spinelli disait toujours que dans n'importe quel Parlement, il y avait trois secteurs. Il y avait une minorité d'innovateurs, ou de fédéralistes, si vous voulez. Il y a une minorité d'immobilistes et un grand marais. Et gagne la bataille celui qui est capable de gagner le consensus du marais. Et donc, dans n'importe quel parlement, mais le Parlement européen encore plus que les parlements nationaux, parce que dans les parlements nationaux, les partis sont plus polarisés, si vous voulez. Dans le Parlement européen, au contraire, il est plutôt vrai qu'il y a un grand marais des parlementaires qui n'ont pas une idée claire de la direction dans laquelle ils veulent aller. Alors, quand nous avons lancé l'initiative du crocodile, nous, on était une petite minorité, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit avant, on était 9 parlementaires. Et donc, c'était une minorité d'innovateurs. Il y avait une minorité d'immobilistes, mais les immobilistes venaient plutôt de l'extrême gauche. Donc, il y avait la gauche danoise, il y avait les communistes français. C'était surtout l'extrême gauche qui était plutôt du groupe d'immobilistes. Et donc, il y avait cette minorité. Et puis, il y avait ce grand marais. Et nous avons gagné notre bataille parce que la majorité du marais a compris qu'il fallait être plutôt du côté des innovateurs que du côté des immobilistes.
La deuxième, les traités européens sont modifiables.
Le projet de Spinelli quand même a eu la capacité de faire comprendre au gouvernement que les traités n'étaient pas écrits sur le marbre, mais qu'on pouvait les changer, les traités. Donc la force du projet Spinelli était quand même de faire comprendre qu'on pouvait mettre la main sur la réforme des traités. C'est la chose qui nous a été reconnue toujours par Jacques Delors, que la mérite du projet Spinelli était celle de pousser les gouvernements nationaux à ouvrir la voie à la réforme des traités, après à créer avec les traités de Maastricht l'Union européenne.
J'insiste, on peut changer l'Europe. Elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle n'est pas acquise telle qu'elle, sans possibilité de la faire changer. On peut changer les traités et on peut également, ou je dirais, on doit également changer les récits européens. Le récit de l'État-nation est encore beaucoup trop dominant. Spinelli rappelait dans une interview que la seule expérience politique que les masses aient pu acquérir jusqu'ici est celle qui se déroule au sein de la nation. Il n'est donc pas évident de proposer un nouveau modèle. C'est pourtant ce que Spinelli a essayé de porter tout au long de sa vie avec sa femme, Ursula Hirschmann, un récit fédéraliste européen. Alors que le groupe d'extrême droite au Parlement européen, Identité et démocratie, a inscrit dans ses statuts que l'État-nation est l'échelon le plus élevé possible auquel la démocratie peut réellement fonctionner, qu'il s'oppose à tout nouveau transfert de pouvoir des nations, alors que le mot de souveraineté nationale est de tous les discours politiques et de tous bords, pour Pierre Virgilio d'Astoli, qui se détache des mouvements fédéralistes qu'il trouve trop techniques ou trop institutionnels, il faut inventer de nouveaux récits européens. Et ce n'est pas en parlant de problématiques de constitutionnalité qu'on arrivera à faire changer les perceptions sur la construction européenne.
Il faut changer de narrative. Prenez le cas de la politique migratoire. Si nous continuons à avoir comme narrative celle selon laquelle l'Union européenne est envahie par des immigrés, évidemment les gens ils réagissent en disant il faut fermer les frontières, il faut renvoyer ces gens à leur pays. Donc il faut changer la narrative pour dire, par exemple, l'Union européenne a besoin de ces immigrés. Alors, ça, c'est quelque chose sur laquelle les politiques migratoires peuvent résoudre nos problèmes. Donc, c'est le problème de la politique migratoire, le problème de l'intelligence artificielle. L'autre jour, le Parlement européen et le Conseil ont voté une loi concernant l'intelligence artificielle. Moi, j'ai dit toujours que les États-Unis, en matière d'intelligence artificielle, sont le big tech, la Chine, c'est le big state, et l'Europe pourrait être le big democracy, non? Nous sommes la zone du monde qui est la seule capable d'établir des règles qui peuvent défendre les droits des citoyens. Donc, mais il y a un besoin d'une narrative différente de celle qui est faite jusqu'à maintenant. Et il faut être capable de développer cette narrative. Donc, les problèmes institutionnels, ça ça ne doit pas venir en amont. Le problème institutionnel, c'est la conséquence des choses qu'on doit faire, non ?
Sur ce point, je le rejoins complètement. C'est vrai que je suis toujours surprise d'entendre des gens me dire que pour engager ou mobiliser plus de jeunes, par exemple, autour du projet européen, il faut leur expliquer comment marchent les institutions. C'est faux. Cela fait 3 ans que je travaille sur ce sujet. Honnêtement, je n'y comprends toujours pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est créer du lien, une identité partagée et des récits communs.
Il faut faire attention, parce que parfois, quand on parle d'identité, il y a des gens qui pensent qu'identité, ça veut dire être identique. Tandis qu'identité veut dire 2 choses différentes. Identité, être identique ou s'identifier à quelque chose, ce sont 2 choses différentes. Alors, la question que nous devons construire quelque chose qui nous permet de nous identifier dans la dimension européenne. Donc, vous savez qu'en Allemagne, il y a ces 2 mots qui sont différents, qui malheureusement n'existent pas dans d'autres pays, qui est Vaterland et Heimat. Vaterland, c'est le pays où je suis né. Et Heimat, c'est le pays que j'aime, disons, d'un certain point de vue. Et ça n'existe pas dans d'autres langues, ni en français, ni en allemand, ni en italien, ni en espagnol. C'est le seul pays où il y a cette différence entre Heimat et Vaterland. Alors, nous devons être capables, c'est ce que dit Habermas. Habermas, il parle toujours de patriotisme constitutionnel. Donc, le Heimat, c'est le patriotisme constitutionnel, d'un certain point de vue. Et donc, nous devons être capables de construire quelque chose qui pourrait être aimé par les gens et dans lequel les gens peuvent s'identifier, pas dans le sens d'être identiques, parce que quand même nous sommes différents, mais il faudrait construire un Heimat européen.
Alors, faut-il encore défendre notre souveraineté nationale, cette autorité suprême n'ayant au-dessus d'elle aucune autre autorité ? À cette question, Pier Virgilio d'Astoli tape du poing sur la table.
Nous avons déjà perdu notre souveraineté. Nous l'avons perdue parce qu'en matière de défense, nous dépendons des États-Unis. En matière de nouvelles technologies, nous dépendons de la Chine et tout ça. Donc les États, même les grands États, ont déjà perdu leur souveraineté. Donc le problème n'est pas de dire, écoutez, vous devez perdre votre souveraineté pour la donner à un système fédéral. Il faut construire un système de souveraineté partagée. Ça, c'est la question qu'il faut. Est-ce que vous voulez être dans un système de souveraineté partagée ou est-ce que vous voulez vivre dans l'illusion dans laquelle tout seul vous êtes en mesure de résoudre vos problèmes comme les Anglais ils ont fait avec la Brexit ? Et ça, c'est la question qu'il faut poser.
En 1949, quelques années après la rédaction du manifeste de Ventotene, George Orwell écrivait dans son roman d'anticipation 1984
« Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. »
1984, un roman qui résonne plus que jamais pour expliquer ces élections et éclairer les enjeux que traverse notre société actuelle. Pour conclure cet épisode, j'aimerais revenir et retenir quelques idées qui me semblent primordiales pour bien comprendre les élections à venir. L'idée numéro 1, l'Europe est acquise et immuable, à quoi bon aller voter ? Spinelli nous a prouvé qu'on peut changer les choses. Cet entretien m'a donné l'espoir et l'énergie que tout reste à faire pour construire l'Europe que nous voulons. Une Europe plus ouverte, plus sociale, plus solidaire et plus verte. Rien n'est gravé dans le marbre. Encore faut-il aller voter. L'idée numéro 2, pas besoin d'être des millions. Il faut savoir s'appuyer sur les bons leviers. Le Club du Crocodile a démarré à 10 membres. L'idée numéro 3, c'est celle illusoire selon laquelle un État peut, à lui seul, à l'échelle nationale, régler un problème global. Dans un monde aujourd'hui en proie à la polarisation et au chaos où l'influence de la Chine, de la Russie ou des États-Unis est prédominante, la coopération et l'intégration européenne pour faire face à des problèmes dépassant largement le cadre national est nécessaire. Et l'idée numéro 4, pour changer de modèle, il faut changer de récit. Alors on arrête de défendre notre souveraineté, on arrête de protéger notre modèle national à tout prix et on s'ouvre. On propose d'inventer et d'imaginer de nouveaux récits européens. L'histoire européenne ne doit pas être laissée aux seuls nationalistes. Alors, pourquoi irez-vous voter le 9 juin 2024 ? Merci à Pierre Virgilio d'Astoli pour cet entretien. Cet épisode a été écrit, produit et réalisé par Laetitia Chaban. Axel Legroux en a fait le montage et le mixage. La musique originale a été composée par Arnaud Paskiewicz. Le manifeste de Ventouten est lu par Lou Lefebvre. Europe et sentiments est un podcast indépendant. Cette nouvelle saison a été rendue possible grâce au soutien du Parlement européen et de la Fondation Hippocrène. Pour connaître tous les événements de cette campagne européenne, nous vous invitons à vous rendre sur le site ensemble.eu. Et pour vous tenir informé de la sortie de nos prochains épisodes ou de nos événements, rendez-vous sur le site europeetsentiments.com ou sur sa page Instagram. À la semaine prochaine.